les traces de ce que l'on a été dans l'enfance, de la manière dont on a été socialisé, perdurent même quand les conditions dans lesquelles on vit à l'âge adulte ont changé, même quand on a désiré s'éloigner de ce passé. Et, par conséquent, le retour dans le milieu d'où on vient, et dont on est sorti, dans tous les sens du terme, est toujours un retour sur soi, et un retour à soi. Des retrouvailles avec un soi-même autant conservé que nié. Affleure alors à la conscience, en de telles circonstances, ce dont on aurait aimé se croire libéré, mais dont on n'ignore pas que cela structure notre personnalité, à savoir le malaise produit par l'appartenance à deux mondes différents, séparés l'un de l'autre par tant de distances qu'ils paraissent inconciliables, mais qui coexistent néanmoins dans tout ce que l'on est.
Chers auditeurs et auditrices, je vous souhaite la bienvenue et vous propose de tendre l'oreille pour écouter Transfuge. Est-ce que vous vous souvenez des petites fiches que vous deviez remplir pour chaque professeur de chaque discipline, chaque année, où il fallait parler de vous, de vos passions, du métier que vous vouliez faire, mais surtout, surtout, du métier de vos parents? Encore aujourd'hui, dans les études supérieures, c'est une question presque indispensable lorsqu'on rencontre de nouvelles personnes. À l'ENS, il s'agit presque toujours des mêmes réponses. Parents profs, parents chercheurs, parents journalistes, parents ingénieurs, parents médecins, autrement dit, parents cadres, si on se fie à la catégorie socio-professionnelle de l'INSEE. Et si vos parents ne font pas partie de la longue liste de métiers de cadres et professions intellectuelles supérieures, on vous regarde avec curiosité, étonnement et, dans le pire des cas, un peu de mépris. La sociologie vous appelle les transfuges de classe. Vous quittez un milieu pour en trouver un autre, nouveau, aux codes sociaux différents, inédits. L'ENS est-elle pour vous synonyme de doute et de peur, de découverte et de refuge? Comment se sentent les enfants d'ouvriers, d'employés, d'agriculteurs ou encore de commerçants? Qui sont-ils? Qui sont les transfuges? Aujourd'hui, c'est Lucas qui va répondre à mes questions. Bonjour Lucas.
Bonjour.
Est-ce que tu pourrais te présenter en nous donnant ton statut au sein de l'ENS, donc si tu es élève, étudiant, auditeur, ton niveau, donc si tu es en L3, pré-master, etc., et ta discipline, s'il te plaît?
Oui, alors je suis étudiant à l'ENS de Lyon. Je suis actuellement en deuxième année de master agrégation au département de physique de l'ENS.
Et pour essayer de comprendre qui tu es socialement, j'ai quelques questions qui ont l'air anodines, mais que j'aime bien poser. Où est-ce que tu as grandi?
Alors, j'ai grandi dans une charmante ville qui s'appelle Fouleyronnes et qui ne dira rien à personne, qui est près d'Agen, qui ne dira peut-être rien à personne non plus, qui est globalement entre Bordeaux et Toulouse dans le sud-ouest de la France.
Est-ce que tu es déjà allé à l'étranger et si oui, combien de fois?
Alors, je suis allé deux fois à l'étranger. Une première fois quand j'étais en voyage scolaire à la fin de ma troisième en Angleterre. Et la deuxième fois, il y a 3 mois, pour mon stage à l'étranger avec l'ENS, quand je suis allé en Suède pour mon stage de recherche en première année de master.
Est-ce que tu as déjà fait du ski?
Oui, et c'est très rigolo comme question parce que la première fois que j'ai fait du ski, c'était il y a précisément 6 mois. La première fois avec des amis de l'ENS.
T'avais quel âge quand t'es allé au musée pour la première fois?
Alors avec mes parents, on avait beaucoup l'habitude de faire des sorties culturelles, mais c'était pas forcément des sorties de musée, plutôt des visites de châteaux, d'églises, tout ça quand on partait en vacances. Donc assez jeune, la première fois que je suis rentré tout seul dans un musée de moi-même sans mes parents, j'étais quand même, je pense, déjà assez âgé. Je pense que je devais déjà être en classe prépa à mon avis.
Est-ce que tu as sauté une classe et si oui, combien?
Oui, j'ai sauté une classe.
C'était quoi ton livre préféré quand tu étais enfant?
Je pense que mon livre préféré quand j'étais enfant, c'était la saga Harry Potter.
Bon, et maintenant que les questions faciles sont passées, autant continuer avec la question qui fâche. Qu'est-ce qu'ils font comme métier, tes parents?
Alors, mon père est électricien. Du moins, il a un diplôme d'électricien. Et ma mère est secrétaire au département des ressources humaines de l'hôpital qui est à côté de chez moi.
Est-ce que tu sais à quoi ça correspond comme CSP, donc comme catégorie socio-professionnelle?
Alors, je pense que mon père actuellement, qui ne travaille pas précisément comme électricien, mais comme... c'est un métier un peu difficile à expliquer. Mais je pense qu'il est plutôt dans la catégorie employé, employé de commerce. Et ma mère, elle est plutôt... je pense qu'il doit y avoir une catégorie pour les agents de la fonction publique, mais qui ne sont pas des, qui ne sont pas des cadres.
Et maintenant qu'on en sait un peu plus sur toi, je voulais simplement te demander comment tu vas là maintenant à l'ENS.
Je pense que ça va, j'ai pas de... À l'ENS, j'ai pas de... Je me sens bien à l'ENS, c'est pas quelque chose qui me fait extrêmement peur ou qui m'a fait extrêmement peur depuis que j'y suis. Je pense que je me sens plutôt à l'aise. Ouais.
Et est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu faisais avant d'arriver à l'ENS ? Donc, si tu as fait une prépa, une fac, et où est-ce que tu l'as faite, etc. Et d'une part, à quel point l'ENS, c'était vraiment ton but absolu ? Et d'autre part, à quel point tu pensais que tu serais pris sur une échelle de 1 à 10 ?
Alors oui, j'ai fait une prépa. J'étais en prépa MP à Montaigne, donc à Bordeaux. J'ai fait 2 ans de prépa. L'ENS, quand je suis arrivé en prépa, c'était vraiment mon objectif absolu. Parce que je suis sorti du lycée en me disant que je voulais absolument être soit chercheur, soit enseignant. C'était les deux vocations que je jouais. Donc l'ENS a semblé tout tracé pour cette voie-là. C'est d'ailleurs mes enseignants du lycée qui m'ont un peu poussé à aller en prépa, parce que là-bas, moi, je pensais vraiment aller à la fac, comme ce qu'avait fait mon frère avant moi. Et je pensais, alors j'étais très confiant quand je suis rentré en prépa, beaucoup moins à la fin de la prépa. Et au tout dernier moment, je pense que sur une échelle de 1 à 10, je dirais que je pensais avoir l'ENS à 4, 5, quelque chose comme ça.
L'ENS, c'est considéré comme une réussite sociale et intellectuelle pour beaucoup. Mais comme toute victoire ou tout succès, il y a souvent beaucoup d'échecs de tout type avant. C'est quoi l'échec, qu'il soit scolaire ou non, qui t'a le plus marqué et qui t'a le plus permis d'avancer ou de rebondir ?
Je dirais que j'ai pas réellement eu beaucoup d'échecs tout au long de ma scolarité. Enfin, ça a été un parcours assez typique pour arriver jusqu'en classe prépa et après jusqu'à donc une classe étoilée quand j'étais en prépa. Je pense que le premier véritable échec et qui m'a fait rebondir immédiatement, c'est le fait qu'à la fin de la seconde année de prépa, j'ai pas eu l'ENS sur concours. Et à ce moment-là, je pensais vraiment ne pas finir à l'ENS, qui m'avait foutu un sacré coup au moral, comme je disais, puisque c'était vraiment l'envie, le rêve que j'avais, que j'avais vraiment, dont j'avais vraiment besoin quand je suis rentré en classe prépa. Et ce qui m'a tout de suite fait rebondir, c'est quand j'ai été pris sur dossier un mois après, puisqu'on avait les résultats fin juillet et le résultat de l'admission de dossier fin, moi je l'ai eu fin août. Vraiment au moment où j'ai eu cette admission sur dossier, cette deuxième chance, c'est vraiment ça qui m'a fait, je me suis dit cette fois-ci cette chance-là je peux pas la laisser passer. Il y a eu un échec qui a failli coûter ce que je voulais absolument faire dans ma vie. Alors j'aurais sûrement trouvé d'autres façons de le faire, mais c'était vraiment l'état d'esprit que j'avais à l'époque. Et le fait de qu'on m'offre cette deuxième chance, vraiment, je me suis dit je ne peux pas la laisser passer, il faut absolument la saisir.
Mais du coup est-ce que être pris sur dossier à l'ENS, c'est vraiment une forme de rebondissement par rapport à l'échec ? Parce que pour moi, c'est juste qu'il y a une chose en plus qui est arrivée, tu vois, et qui a fait que tu as été pris. Qu'est-ce que ça t'a apporté en termes de... Enfin, dans ta vie, ce truc-là, de dire, bon, en fait, putain, je suis pas pris... Enfin, je réussis pas le concours de l'ENS, quoi.
Mais je pense que justement, en ayant été habitué très longuement, je suis quelqu'un qui est très mal à l'aise avec l'échec, pas forcément l'échec de manière générale au sens où de rater quelque chose, mais en fait avec ce que moi-même je considère comme un échec pour moi. Et c'était un peu la première porte sur le parcours qui se fermait devant moi alors que j'espérais l'avoir. Et en fait vraiment ce recul, ce contre-coup de « Ah oui, en fait, aussi tu peux échouer et ça arrive et c'est pas grave et on trouve des moyens d'aller contre ça. » Alors bon, le moyen moi que j'ai eu, c'est finalement d'être quand même pris à l'ENS, donc on peut relativiser l'échec absolu, mais malgré ça je pense que si ça avait pas été le cas, j'aurais trouvé une autre porte de sortie et je pense que c'était vraiment juste la prise de conscience de se dire ça peut m'arriver et il faut que pas que je me fasse déborder par ça, il faut que je sache quoi faire de cet échec, il faut que je comprenne que ça peut arriver et en tirer un bénéfice.
Mais justement, quel bénéfice t'en tires ?
Je pense que le bénéfice le plus immédiat que j'en ai tiré, c'est de me dire il faut que je puisse faire toujours mieux pour ne plus avoir à refaire cet échec, alors sans que ça soit le cas, et sans que l'échec effectivement soit impossible. Mais c'était vraiment une prise de conscience assez brutale de se dire, d'accord, je peux échouer. Si ça devait arriver de nouveau, alors je devrais. Il faut pas se laisser tomber. Non pas que ce soit simple. Il y a beaucoup de choses qui peuvent affecter les capacités de rebondir. Moi, j'ai eu un environnement social qui était assez privilégié pour rebondir, mais c'était vraiment ce côté-là de me dire ce n'est qu'un échec, il faut réussir à passer outre, et c'est le fait d'être confronté pour la première fois à l'échec qui m'a fait me dire ça.
Et une fois entré à l'ENS, qu'est-ce qui t'a fait le plus ressentir que tu venais d'un milieu social différent ?
J'ai pas vraiment ressenti j'ai pas eu vraiment cette réaction de venir d'un milieu social différent à l'ENS. Je pense que c'est en partie lié au fait qu'il y a moins d'exigences de catégories socio-professionnelles supérieures quand on entre dans un milieu scientifique comparé à un milieu littéraire. Bon, alors effectivement, j'ai croisé beaucoup de mes camarades et de mes amis dont les parents sont soit chercheurs, soit profs, soit cadres de manière générale, ce qui n'était pas mon cas, mais c'est pas quelque chose qui... J'ai jamais ressenti de malaise de la part de ces personnes, une sorte de jugement comme quoi je devrais pas être là, alors sûrement tomber sur des personnes très bienveillantes, mais malgré cela, ça m'a permis de ne pas me sentir mal à l'aise dans cet endroit que j'espérais de mes voeux et que j'avais enfin réussi à obtenir.
Sans même parler de remarques ou de choses qu'on aurait pu te dire, il n'y a rien qui t'a fait sentir qu'il y avait quand même une différence socialement ?
Non, vraiment, même en y réfléchissant bien, je n'ai pas eu cette impression. Alors ça a peut-être joué sur le fait que les premières années, les premières semaines à l'ENS n'ont pas été franchement... extravagante vis-à-vis du contact social avec les autres étudiants, mais non, il n'y a rien de particulier, que ce soit vis-à-vis des enseignements ou vis-à-vis des autres camarades ou n'importe, qui ait pu me faire dire à un moment je ne suis pas à ma place, du moins socialement je ne suis pas à ma place, je ne devrais pas être là.
Pour toi, le syndrome de l'imposteur, c'est quoi et est-ce que ça te parle ?
Alors oui, c'est pour ça que j'ai précisé socialement à la question d'avant, parce que s'il n'y a rien qui socialement me fait dire que je ne suis pas à ma place, ça fait bien 2 ans depuis que je suis ici que je me dis que, par contre, en termes de résultats, en me comparant aux autres, c'était étonnant, c'est même surprenant que j'ai été pris. Ce syndrome de l'imposteur, je le vis vraiment très souvent, et ça passe vraiment par une dévalorisation assez constante de, même dans la réussite, même dans le fait d'accomplir quelque chose, c'est le fait de venir en permanence presque insidieusement soit le sous-estimer, soit se dire que c'est pas mérité, que c'est presque de la chance, qu'il y a forcément un facteur extérieur qui n'est pas dû à sa propre réussite, qui vient matérialiser cette réussite. Et moi, je suis quelqu'un qui est effectivement très sensible au syndrome de l'imposteur. Je pense en partie du fait que j'ai eu un échec. Alors, je disais que ça m'avait permis de rebondir. Et en même temps, je pense que ça a un peu alimenté ce syndrome, que d'un coup, je n'ai pas été pris à l'ENS, mais finalement, oui, c'est bizarre. Il y a un peu cette sorte de dichotomie dans mon esprit qui me fait dire ça. Et c'est quelque chose sur lequel j'essaie de travailler et qu'on essaye de me faire travailler, mais c'est, je pense que ça partira pas comme ça, et que au moment où ça vient se loger vraiment dans son esprit, qu'on commence à douter de ses propres capacités, c'est quelque chose d'assez difficile à extraire.
Et justement, comment tu essayes de lutter contre ça, de prendre confiance en toi, en tes capacités ?
C'est vraiment... Par le fait de passer les années en réussissant plus ou moins ce qu'on me demande dans mon parcours scolaire, par le fait de me confronter avec les autres. Il y a une thématique qui m'a beaucoup aidé, c'est le fait d'être en stage, parce que comparé au milieu scolaire où on va venir noter en permanence, et donc ne pas avoir cette note maximale, ça peut être vu comme, ou avoir une moins bonne note que ce que l'on espérait, ça peut être vu comme le fait que, ah oui, finalement, ben, c'est bien ça, je suis pas assez bon pour être là, c'est vraiment, il y a quelque chose qui a cloché. Au moment où j'étais en stage cette année en Suède, la personne qui m'encadrait et les doctorants avec lesquels j'ai travaillé étaient très contents du travail que j'ai fourni, et d'un coup ça m'a fait un peu changer de paradigme en me disant que Il n'y a pas que cette question des notes scolaires et de la pure réussite aux examens, mais il y a vraiment ce côté, quand on veut faire quelque chose, je suis prêt à me dépasser pour y aller et pour le réussir. Donc j'ai vraiment tout donné quand j'étais en stage, parce que c'était quelque chose qui me plaisait énormément. Et le fait de se donner à fond dans ça, de se rendre compte qu'on réussit quelque chose et qu'en plus de ça, d'être félicité d'avoir des remarques positives sur son travail et sur ce qu'on a réussi à accomplir, ce qui n'est pas forcément le cas avec simplement une note, ce qu'on n'a pas du tout avec les enseignants, ça permet un peu de rattraper et de compenser ce syndrome et de se dire, ah, finalement, il y a des gens quand même qui considèrent que je fais un travail qui est correct et que si je suis ici et qu'ils m'ont choisi et qu'ils sont contents de ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas volé cette place.
Donc si je résume, ta manière à toi d'échapper au moins en partie au syndrome de l'imposteur, c'est de sortir du milieu scolaire.
En partie, oui. Je pense que c'est le fait de se confronter à des gens qui vont évaluer des compétences qui sont beaucoup plus ancrées dans la réalité, dans quelque chose de pratique à faire, ce qui est typiquement le cas d'un stage où il y a un projet à réaliser, il y a des compétences à mettre en œuvre, et pas quelque chose de purement théorique qu'on vient confronter par une simple note, sans prendre en compte beaucoup plus de caractéristiques, que ce soit dans le social, dans les interactions avec les autres chercheurs ou ce genre de choses, et qui tout un mix qui vient montrer qu'on est capable d'accomplir un projet.
Et comment ta famille vit le fait que tu sois entrée à l'ENS? Est-ce que tes rapports avec ta famille ont changé depuis?
Je pense pas qu'ils aient changé. Moi, mes parents, enfin, m'ont toujours soutenu et fort heureusement dans la voie que j'essayais de prendre et dans le fait de rentrer à l'ENS, ils ont été très contents pour moi quand j'ai été admis, mais mes parents, pour rigoler, me disent, quand je leur explique un petit peu ce que je fais à l'ENS, ils me disent « Non, mais nous, on va rien comprendre, on n'est pas normaliens », ce qui, je pense, est assez révélateur de la différence, justement, de milieu social, mais que moi, j'ai pas forcément ressenti. Et souvent, je leur dis que ça n'a absolument rien à voir et que mes rapports, j'essaie de les garder exactement comme ils sont. Alors, je pense que le fait de changer de classe, ça joue un petit peu. On adopte des codes sociaux qui sont plus forcément pareils. On change sa façon d'être, sa façon de parler. Donc, je pense que ça peut parfois, au niveau des proches, entraîner une communication qui est un peu différente d'avant. Mais moi, personnellement, vis-à-vis de ma famille, je pense que ça n'a pas grandement évolué, pas significativement, à part voilà, ces quelques blagues comme ça.
Enfin, est-ce que tu pourrais parler d'un modèle, d'une personne qui a été là pour toi ou qui t'inspire et qui te donne envie de continuer à croire en tes objectifs et peut-être être toi aussi un modèle un jour?
Alors moi, le grand modèle de ma vie, ça a toujours été, depuis que je suis en âge de le connaître, c'était Stephen Hawking, qui du coup est un astrophysicien qui est décédé il y a de ça bientôt 5 ans, je pense maintenant, et qui, lorsque j'étais au collège et que je savais déjà que je voulais devenir physicien, qu'à l'époque j'avais une grande passion pour les étoiles, voir quelqu'un comme ça qui était qui avait tant réussi, qui avait tant apporté pour la science, alors même qu'il était atteint de quelque chose, de la maladie de Charcot, que tout le monde lui prédestinait à mourir à 25 ans, ou du moins à être en fauteuil roulant et ne plus pouvoir rien faire. Il s'est toujours surpassé, démené, il a toujours exploité à fond ses capacités pour réussir et pour démontrer certains des plus belles formules, des plus beaux théorèmes de la physique actuelle. Et ça m'a vraiment beaucoup inspiré pour me dire qu'il fallait y croire, et que même quand on te dit que c'est impossible, que tu n'es pas du bon milieu ou qu'un obstacle va t'en empêcher, faut réussir à le surmonter. Je loin de moi l'idée de dire que c'est facile, mais c'est un peu, ça a toujours été un petit peu ma boussole depuis ce moment-là.
Merci beaucoup Lucas pour avoir répondu à mes questions. Vous venez d'écouter Transfuge, une émission produite par Marie Bonner et diffusée sur Transistor.